Des chiffres publiés ce matin, le taux de chômage a reculé de 0,2 points au deuxième trimestre pour s'établir à 8,5% de la population active. Il poursuit donc sa tendance à la baisse, ce taux de chômage. Il s'agit du plus bas niveau depuis 2009. Pour commenter ces chiffres et la situation économique de la France, les dossiers chauds du gouvernement à la rentrée, deux invités dans le grand entretien sur France Inter. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la division emploi revenu de l'OCDE, professeur au département économie de Sciences Po. Et Gilles Berset, bonjour.
Bonjour.
Gilles Berset, vous êtes professeur d'économie à l'université Aix-Marseille. Alors d'abord, une réaction, ces chiffres, le chômage au deuxième trimestre en recul à 0,2 points. On est maintenant à un taux de chômage de 8,5%. Comment expliquez-vous cette baisse lente, Stéphane Carcillo?
C'est une baisse qui en fait prolonge la tendance qui a commencé depuis 2015 maintenant, qui est très claire. Et l'explication, c'est parce que on a de la croissance, on a une croissance qui est relativement modérée, modeste. On est sur un trend aujourd'hui de 1,3%. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, avec 1,3% de croissance, le chômage baissait pas. Et aujourd'hui, à ce niveau de croissance, le chômage baisse parce qu'en fait, on a enrichi la croissance en emploi grâce à une série de réformes qui ont commencé d'ailleurs dès les années 2007-2008 visant à valoriser le travail, à baisser le coût du travail. Et ça permet ça de créer plus d'emplois avec un point de croissance.
Gilles Berset, sur cette baisse du chômage.
Je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire Stéphane Carcillo. Effectivement, maintenant, une croissance assez faible, assez réduite, est compatible avec une baisse du chômage en France. On peut voir là l'effet de réformes qui se sont heureusement empilées, de bonnes réformes du marché du travail qui se sont heureusement empilées depuis pas mal d'années.
Mais quelles sont les réformes les plus importantes qui, selon vous, expliquent que le chômage baisse ?
Je pense que pour les dernières explications qu'on peut avoir de ce fort enrichissement de la croissance en emploi, qui signifie quand même un ralentissement de la productivité. Hein. On peut voir le verre du côté plein ou du côté vide, parce que, évidemment, à terme, il vaut mieux espérer pour la France des gains de productivité plus dynamiques quand le chômage aura davantage baissé. Mais pour l'instant, il faut se féliciter de ces faibles gains de productivité qui permettent, avec une croissance qui est modeste, de bénéficier d'une baisse du chômage. Et les deux dernières grosses réformes qui peuvent contribuer à expliquer ça, c'est bien sûr, d'une part, le CICE, qui est une réforme, une mesure de politique économique d'une puissance quand même colossale en termes de déploiement de ressources publiques. Et puis, deuxièmement, les ordonnances travail, hein, confirmées par la loi Pénicaud, fin 2017, début 2018, qui, à mon sens, ont un peu le même effet sur le marché du travail qu'une baisse du coût du travail. Il y a moins d'appréhension, en quelque sorte, à embaucher de la part de beaucoup d'entreprises, en particulier les PME. Moins d'appréhension et du coup, évidemment, cet enrichissement de la croissance en emploi.
Le taux de chômage est donc passé sous la barre des 9% depuis le quatrième trimestre 2018. On peut dire qu'Emmanuel Macron bénéficie d'une mesure qui a été créée, lancée par François Hollande, Stéphane Carcillo.
C'est un petit peu plus
compliqué. Vous évoquiez l'importance du CICE.
Oui, non, la stratégie du gouvernement en fait s'inscrit dans une stratégie, je dirais, plus longue, comme je l'ai dit, de valorisation du travail, où on a continué à abaisser les charges qui pèsent sur le travail, notamment au niveau du SMIC, qui était un des gros sujets en France, parce que le coût du travail au niveau du salaire minimum était très élevé en comparaison internationale. Et puis, on a aussi trouvé des manières de sécuriser les fins de CDI pour éviter justement cette rotation trop forte sur les CDD qui fait pas baisser le chômage. Et donc ça, c'était la loi travail de 2016. Et puis les ordonnances qui sont venues renforcer ces dispositions. On a créé aussi en 2008 le RSA avec ce que s'appelait à l'époque le RSA chapeau qui a été transformé en prime d'activité pour faire en sorte que les personnes qui travaillent à proximité du SMIC aient des revenus suffisants pour sortir de la pauvreté et que le travail paye, que ce soit plus intéressant. Et donc ça a été renforcé aussi avec la création de la prime d'activité. Donc on voit qu'il y a toute une série de réformes en France qui vont dans le même sens, hein, qui visent à rendre le travail plus attractif et en même temps de réduire le coût du travail là où il fait mal, c'est-à-dire au niveau des bas salaires. Et puis on a une réforme qui va être mise en œuvre bientôt, celle de l'assurance chômage, qui va dans le même sens, qui consiste à essayer de limiter les allers-retours entre emploi et travail travail et contrats courts, qui est un des gros problèmes français, qui, pour mon avis, explique une grosse part du chômage résiduel en France en comparaison internationale. Et cette réforme, elle va aussi avoir des effets, à mon avis, assez rapidement quand elle sera mise en œuvre. Parce que, comme Gilles Berset l'a dit, ces mesures financières, que ce soit du côté des entreprises, le CICE transformé en baisse de charges, ou des travailleurs, et notamment tout ce qui concerne la prime d'activité ou l'assurance chômage, ça peut avoir des effets assez rapides à court terme. Cela étant, la France reste quand même, malgré ses réformes nombreuses et cohérentes, reste quand même parmi les pays européens où le taux de chômage est le plus élevé. Il faut quand même le dire. Sur 36 pays de l'OCDE, il y a 4 ou 5 pays qui sont au top, dont la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie. Le Portugal, par exemple, qui est un pays qui a connu aussi beaucoup de chômage après la crise, est retombé à 6,4%. L'Allemagne, à côté de chez nous, est à 3%. Le Royaume-Uni aussi à 3%. Les pays du nord de l'Europe, qui ont un modèle social extrêmement protecteur, un peu comme la France, ont des taux de chômage qui sont autour de 5%. Donc on voit qu'il y a encore des marges de progression pour faire baisser ce taux de chômage en France.
Vous l'évoquiez, Stéphane Carcillo, cette réforme des règles d'indemnisation du chômage, la réforme de l'assurance chômage. Sur cette réforme, Gilles Berset, je rappelle, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, comment jugez-vous cette réforme qui, disons, restreint, durcit les conditions d'indemnisation? Est-ce que cette réforme va accélérer le retour à l'emploi et donc c'est une réforme importante pour lutter contre le chômage, ou alors est-ce qu'elle va aussi permettre de réduire le déficit abyssal de l'assurance chômage,
Gilles Berset? Oui, alors tout d'abord je voudrais quand même aller dans le même sens que ce que vient de dire Stéphane pour dire que le monde développé est au plein emploi. Connaît des tensions même sur le marché du travail très très fortes. Donc les pays, vous voyez, beaucoup de gens se disent le taux de chômage élevé en France, c'est le résultat de la crise économique, c'est le résultat du choc qu'on a connu à la fin des années, la première décennie 2000, le choc de 2008-2009. Non, tous les pays ont connu ça, mais par contre, peu de pays restent avec un chômage massif. Et parmi ces pays, hélas, il y a nos. Donc, vous voyez, l'univers est au plein emploi, l'univers développé est au plein emploi. Quelques pays connaissent encore du chômage massif et donc il nous faut essayer de comprendre pourquoi ces quelques pays connaissent du chômage massif et les réformes qu'il faut engager pour évidemment sortir de cette situation.
Mais quelle est votre réponse? Et parmi cette réforme, pourquoi sommes-nous, nous, toujours à 8,5% de chômage?
La France, comme ces autres pays, connaît des rigidités institutionnelles. Quand on dit institution, vous voyez, c'est le mode de fonctionnement du marché des biens, du marché du travail, de l'État, etc. La France connaît des rigidités très très fortes et les réformes qui sont engagées depuis effectivement quelque temps, qui ont été accélérées sur les deux dernières années, eh bien vont dans le bon sens puisque elles permettent d'assouplir en quelque sorte le fonctionnement de l'économie française et permettre à l'économie française de sortir de cette situation très défavorable.
Alors la réforme de l'assurance chômage.
Alors la réforme de l'assurance chômage va évidemment dans le bon sens puisque ça va réduire des incitations actuelles qui enferment des travailleurs dans des situations de contrats courts qui peuvent avoir intérêt à rester dans des situations de précarité, puis qui peuvent inciter aussi des entreprises à garder des salariés durablement dans des situations de précarité avec une alternance de chômage de contrats de travail très très courts. La France, avec la Belgique, faut le dire, l'un des champions du recours aux contrats courts, et la Belgique n'est pas une véritable référence pour le fonctionnement du marché du travail. Donc ça va dans le bon sens, que ça va réduire ces incitations. On peut néanmoins se dire qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, puisque sur, par exemple, l'instauration d'un bonus-malus qui va désinciter au recours contrat court, bien beaucoup de secteurs, beaucoup d'activités sont sorties de ce bonus-malus, la construction, le médico-social, les entreprises de moins de 10 salariés. C'est dommage de ne pas avoir fait quelque chose de simple, de lisible, de compréhensible pour tous les acteurs. Disons, les contrats courts, c'est mauvais parce que ça entraîne des externalités, ça doit être mobilisé que dans des cas de nécessité absolue. Et ce caractère mauvais, eh bien, existe aussi bien pour les petites entreprises, pour les entreprises de la construction, dans le médico-social, que dans les autres activités économiques. Vous voyez, donc on a enlevé un peu de lisibilité, d'efficacité à cette mesure. Je regrette aussi évidemment la dégressivité des allocations chômage pour les cadres qui sont déjà des contributeurs nets à l'indemnisation du chômage, puisqu'ils sont beaucoup moins souvent que les autres salariés au chômage. Néanmoins, malgré ces éléments de réserve, cette réforme va évidemment dans le bon sens, avec une réduction des très fortes incitations qui existaient au contrat court, incitations pour les entreprises et hélas aussi pour des salariés qui pouvaient avoir un intérêt financier à rester enfermés dans des situations de contrat court.
Vous parlez des contrats de travail. Il y a une grève actuellement, la grève des livreurs de Deliveroo. Quels changements, selon vous, sont nécessaires dans l'économie numérique qui se développe de plus en plus où une totale flexibilité entraîne la précarité? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine-là pour que les choses changent et que ceux qui travaillent dans ces secteurs de l'économie numérique soient mieux protégés? Stéphane Carcillo.
Alors, il y a une vraie transformation, effectivement, des emplois dans certains secteurs, avec le recours à ces formes non standards ou un peu atypiques de travail.
Là, on est dans le non-droit social.
Voilà. Alors là, ces formes d'emploi-là, elles restent quand même extrêmement limitées quand on regarde vraiment les statistiques. C'est des tout petits chiffres actuellement, hein. Donc c'est pas du tout là aujourd'hui. On peut pas parler de la fin du CDI, de la forme standard qui continue à concerner 85% de l'emploi dans notre pays et ailleurs. Cela étant, c'est important d'avoir effectivement de prévoir le futur et de préparer le futur pour ces nouvelles formes d'emploi qui, avec les plateformes et la digitalisation, vont se démultiplier. Et là, il y a un vrai sujet effectivement de droit social et aussi de droit de la concurrence, hein, parce qu'un des gros enjeux, c'est quoi? C'est que ces salariés sont des travailleurs indépendants. Donc, comme travailleurs indépendants, on peut pas tellement leur appliquer de salaire minimum puisque c'est pas un salaire, c'est une rémunération. Et si on commence à fixer une rémunération minimale, eh bien, ça peut contrevenir au droit de la concurrence, parce qu'on n'est pas censé fixer des listes de prix. Donc il faut repenser droit du travail et droit de la concurrence pour ces types d'emplois qui sont atypiques, qui sont dans une sorte de zone grise, pour les protéger. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait plus de fluidité dans les droits sociaux, qu'on puisse passer du salariat au travail indépendant ou du travail sur plateforme en continuant à avoir une protection minimale d'une part, et d'autre part, une portabilité des droits, notamment des droits de protection en cas d'accident, des droits à la retraite. Et pour ça, il y a eu des réformes importantes. Il y a la création de l'ouverture de l'assurance chômage aux travailleurs indépendants. C'est un premier pas. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire en sorte qu'il y ait de la fluidité, notamment dans les régimes de retraite et de protection sociale.
Alors, il y a beaucoup d'appels au standard. On va les retrouver dans quelques instants. 01 45 24 7000. Et aussi des courriels assez critiques après vos déclarations, vos commentaires sur ces chiffres concernant l'emploi en France. Je vous lis ce que nous écrit Ulysse. Vous êtes deux économistes pro-Macron et vous en faites l'éloge ce matin. Quel est votre positionnement par rapport au pouvoir, Gilbert Sept?
Écoutez, moi, j'essaye de faire mon travail d'économiste avec conscience. Et dans mon intervention précédente, vous avez bien entendu que j'avais des éléments de réserve par rapport à la réforme engagée par l'exécutif actuel sur l'indemnisation du chômage. Il n'empêche que je partage l'avis de très très nombreux économistes, une très grande majorité d'économistes, pour considérer que les réformes engagées depuis quelque temps, pas simplement sur les deux dernières années, vont dans le bon sens et que la réforme de l'indemnisation du chômage va également dans le bon sens. Si vous me permettez de réagir un point sur les travailleurs indépendants des plateformes, on est en face d'une vraie difficulté, mais cette difficulté n'est pas franco-française, hein. On voit que énormément de pays se débattent avec ces véritables difficultés. Les plateformes ne sont pas les employeurs de ces travailleurs indépendants, ce sont des intermédiaires entre le donneur d'ordre, qui est la personne qui s'assied par exemple dans un VTC pour se faire transporter, et puis le conducteur du VTC. Néanmoins, c'est un intermédiaire particulier, puisque c'est un intermédiaire qui peut prescrire des horaires, qui prescrit un tarif, qui prescrit aussi des conditions de travail, avec très souvent du contrôle et des sanctions. Et d'ailleurs, c'est sur ces éléments de contrôle et de sanctions que les juridictions sont amenées parfois à requalifier en salariés ces travailleurs. Donc, il y a une véritable difficulté La loi sur les mobilités, la LOM, qui va être discutée, qui va être encore discutée à la rentrée, est une loi qui essaye d'aller un petit peu plus loin que ce qui a été fait jusqu'ici par la loi El Khomri, en essayant de susciter des chartes créées par les plateformes. C'est un pas dans la bonne direction. Il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour éviter que des travailleurs, parfois qui connaissent des conditions de subordination très très fortes, comme les salariés, eh bien que ces travailleurs indépendants ne continuent pas à rester dans une situation de droit très très déséquilibrée par rapport aux salariés. Voilà, faut continuer à avancer.
Stéphane Carcio, vous répondez à ces critiques. Je résume les courriels, les auditeurs. Certains, nos auditeurs, nous ont écrit en dénonçant la façon dont vous faites l'éloge de la politique libérale d'Emmanuel Macron. Ils notent qu'on allège les charges des entreprises et que peut-être qu'il y a de la flexibilité, mais il y a aussi pour beaucoup de travailleurs de la précarité.
Non mais enfin, ce qu'on fait en tant quand on est économiste et qu'on travaille effectivement sur de manière sérieuse sur l'évaluation des politiques publiques, c'est qu'on garde les données. On regarde l'efficacité des différents dispositifs. Donc quand Gilbert Sept et moi-même disons qu'effectivement ces baisses de charges sur les bas salaires, c'est plutôt une bonne chose, c'est qu'en fait on a des évaluations qui montrent que ça crée de l'emploi et que c'est un dispositif qui rapporte plus en matière de création d'emplois qu'il ne coûte. Et donc c'est un dispositif qui est efficace. Idem sur l'assurance chômage. Il y a des éléments objectifs évidents qui montrent qu'il y a un problème de l'assurance chômage en France, notamment qui favorise trop la précarité, justement, notamment parce que les entreprises peuvent recourir à des contrats très courts sans en supporter le coût du tout. Et du coup, on a aussi des expériences étrangères dans ce domaine qui montrent que la réforme qui a été proposée va dans le bon sens parce que dans d'autres pays, elle a fonctionné. Donc il n'y a pas de position idéologique. Là, on regarde ce qui se passe en France et à l'étranger. On regarde les données, on regarde les évaluations d'impact et on peut effectivement dire que ces réformes vont dans le bon sens qui consiste à effectivement promouvoir l'emploi et baisser le travail. Cela étant, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il y a encore des réformes à faire et sur lesquelles la France est plutôt en retard et sur lesquelles il y a des gros challenges, notamment la mobilité à travers le territoire. Il y a des énormes disparités en France en matière de taux de chômage entre le nord et le sud, par exemple, comparé à des zones d'est et d'ouest de la France ou comparé à l'Île-de-France. Et des grosses difficultés pour les personnes, et notamment les jeunes, pour bouger de ces zones où il n'y a pas de job aux zones qui sont extrêmement dynamiques. Et ça a trait aussi à la politique du logement. Et cette mobilité, il va falloir la développer. L'autre gros challenge de la France, c'est la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle. La France ne forme pas suffisamment. Beaucoup de chômeurs ne trouvent pas de job parce qu'ils n'ont pas les compétences requises par les entreprises. La France, aujourd'hui, dépense beaucoup d'argent en formation professionnelle, mais forme moins ses salariés, ses chômeurs, que la plupart des autres pays de l'OCDE. Et donc là, il y a eu une réforme importante en 2018 va falloir mettre en œuvre. Le gros challenge, c'est que les personnes qui ont le plus besoin, c'est-à-dire les moins qualifiées, arrivent à accéder à la formation professionnelle. Et ça va pas être facile à réaliser.
Au Standard de France Inter, ce matin, Alain est avec nous. Bonjour Alain.
Oui, bonjour, merci pour vos émissions. Je souhaiterais interroger vos invités. Il y a un double angle sur ma question. Donc j'ai bien écouté leur argumentation. Bon, on peut que se réjouir hein, de la baisse du taux de chômage. À côté de ça, nous avons des annonces de plans de restructuration qui sont énormes, que ce soit Ford, que ce soit Conforama, Castorama, Brico Dépôt, Carrefour. On a des gros plans de restructuration qui sont annoncés. J'évoquerai aussi les délocalisations d'emplois en Roumanie, en Bulgarie, alors que l'Europe devrait quand même assurer peut-être un autre développement que des délocalisations d'emplois dans les fonctions support, comme par exemple la finance, les ressources humaines. De plus en plus d'entreprises délocalisent en Roumanie ou en Bulgarie. Et le deuxième angle de ma question, c'était comment prévenir les futures crises économiques. Aujourd'hui, les taux sont négatifs, donc ce qui pourrait expliquer aussi ces bons chiffres du chômage. le jour où les taux remonteront, où la BCE en fait aura décidé de remonter ses taux, qu'est-ce qui va se passer? Comment prévenir donc les futures crises économiques?
Les taux d'intérêt. Pour répondre à Alain, Gilles Berset, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille.
Oui, alors
d'abord toutes les fermetures d'entreprises, d'usines dont on parle régulièrement.
Alors tout d'abord, la vie économique, c'est que des entreprises se créent, d'autres entreprises moins performantes peuvent être amenées à réduire leur allure ou à disparaître. Et ce qu'il faut impérativement, c'est qu'évidemment les pouvoirs publics, l'État accompagnent ces mutations par des efforts de formation, par des encouragements à la mobilité, non pas des freins à la mobilité, vous voyez. Parce que pour aller dans ce que disait Stéphane tout à l'heure, non seulement on voit des grandes disparités dans les taux de chômage entre différentes régions et différents bassins d'emploi, mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que quand on compare des cartes de taux de chômage en 1982 et en 2017, j'ai regardé ça hier, on est étonné de constater que les départements qui avaient les taux de chômage les plus élevés en 2017 sont les mêmes aujourd'hui, et les départements qui avaient les taux de chômage les plus bas sont les mêmes aujourd'hui. Ce qui atteste, vous voyez, sur un intervalle de 35 ans, une très très faible mobilité en France. Donc ces freins à la mobilité, il faut évidemment les combattre, et il faut permettre aux personnes de pouvoir se déplacer là où il y a des appels d'emploi, en quelque sorte les plus forts, et accompagner les mutations économiques par des efforts de formation. Encore une fois, il faut souligner que quand on parle de plans de restructuration, de délocalisation, etc., c'est le fait de tous les pays et que le reste du monde développé est au plein emploi. Vous voyez, la question est de savoir pourquoi, malgré ces éléments qui sont communs, nous, on est encore dans des situations de chômage massif.
Stéphane Quercy, juste le point qu'évoquait Alain, la baisse des taux d'intérêt, les conséquences? C'est taux bas actuellement.
A priori,
Alain s'inquiétait des conséquences.
Oui, les conséquences pour l'instant des taux bas, c'est plutôt aussi une capacité des entreprises à s'endetter et à investir, avec des effets qui peuvent être tout à fait favorables en matière de productivité. Donc effectivement, ça.
Donc c'est bon, par exemple, pour les chiffres du chômage, ça peut aider encore à augmenter
cette baisse
du chômage.
Tout à fait, parce qu'en fait, les banques centrales américaines et européennes réagissent aussi à un ralentissement qu'on observe pour baisser les taux, justement pour soutenir l'activité et éviter que le chômage ne monte. Donc il y a effectivement plutôt favorable comme stratégie. Juste très rapidement pour revenir sur l'histoire des délocalisations ou restructurations, un gros sujet c'est l'accompagnement, comme l'a dit Gilles Berset, et il y a des pays comme en Suède par exemple, où on intervient avant que les gens quittent l'entreprise, c'est-à-dire que pendant 6 mois, pour préparer la fermeture d'un site ou d'une usine, en fait, les partenaires sociaux et le service public de l'emploi commencent déjà à former les personnes et à les réorienter vers de nouveaux emplois pour éviter le passage par le chômage. Ce type d'intervention très très tôt, en fait, c'est un peu ça la solution, je pense, pour essayer de traiter très très en amont les conséquences possibles d'une fermeture de site.
Merci à nos invités Gilles Berset et Stéphane Carcillo.